Un quatuor biennois vient nous raconter de belles histoires avec leurs instruments, cette Inuit Pagoda et leur nouvelle EP Echo Chamber. En voiture avec Steve.
De retour sur la banquise vallonnée d'Inuit Pagoda, 3 ans après Backflows, le trio biennois devenu Quatuor a sorti Echo Chamber, un nouvel EP qui chemine entre le jazz, le krautrock et l'ambiance qu'on leur connaît bien, mais avec cette dimension synthétique supplémentaire qui donne encore plus d'épaisseur à la couche de neige. Rencontre avec Emilio. Bonjour.
Bonjour.
Pour moi, ce disque, c'est un voyage en train. Il y a des éléments sonores qui se répètent comme les rails sur les voies. Et puis, des paysages qui changent à chaque sortie de tunnel. Où est-ce que vous nous emmenez ?
Alors là, on a pris plein de détours, plein de chemins différents. On commence avec un morceau qui est très brut, donc quelque chose d'assez acéré, avec même un peu techno sur les bords. Et à partir de là, ben, on va naviguer dans plusieurs atmosphères, des choses plus calmes, des choses longues qui se répètent, des choses vachement plus intenses. Et puis voilà, il n'y a pas une direction propre, mais il y en a plusieurs. Et puis, on a essayé de faire en sorte que le chemin soit agréable et intéressant.
En tout cas, il y a ces deux éléments, l'aspect répétitif, presque transcendantal, et puis l'aspect plus cinématographique avec toutes ces surprises, ces textures. S'il ne devait en rester qu'un, lequel ce serait ?
J'irais plutôt sur le côté cinématographique, parce que déjà, ça me plairait de pouvoir poser cette musique sur des images. Et puis aussi du fait que malgré la répétition, en fait, elle nous permet beaucoup de rentrer en plus en profondeur dans le morceau. Mais même si les choses se répètent, en fait, on les entend jamais de la même manière. Puis au bout d'un moment, en fait, on découvre d'autres éléments, même s'ils étaient déjà là. Le fait de les répéter, en fait, ils prennent une autre tournure, une autre couleur. Et puis c'est un peu ce jeu-là qu'on essaye d'amener.
D'où l'idée de la chambre d'écho qui est stipulée dans le titre, où en fait certains éléments se répètent, s'amplifient et prennent, comme vous le dites, une autre couleur.
Ouais, c'est un peu ça. La chambre d'écho, ça fait allusion à plein de choses, mais dont celle-là où justement on va essayer d'amener une musique en fait qui nous est propre, puis de faire résonner en fait ces choses entre elles, notamment par une instrumentation qui est assez pour le coup un peu singulière, et puis de faire en sorte que justement ces compositions elles aient une résonance entre elles.
Autre élément qu'on retrouve, ça on le connaissait quand même déjà un peu, c'est le son rock. Emilio, vous enclenchez souvent la distorsion.
J'ai la chance de faire de la guitare et c'est un instrument qui sonne bien avec des distorsions, donc j'aime bien l'enclencher, ouais.
Ce côté un peu rugueux, un peu à la Suicide, avec aussi ce côté répétitif qu'on pourrait retrouver dans certaines chansons. Ce côté-là, il a quand même une place prépondérante dans le projet.
Disons que c'est une manière de... Plus le côté rock ou distorsion, c'est vraiment le côté énergie. Le fait d'amener de la saturation, ça fait qu'au moment où on l'écoute, on reçoit quelque chose qui est assez, on va dire, brutal. Quelque chose qui est presque un peu dérangeant pour les oreilles. On n'a pas l'habitude d'entendre des sons distordus. D'ailleurs, dans la nature, il y en a très, très peu. Et en fait, le fait d'amener ces couleurs-là, c'est plutôt une manière de créer du contraste avec d'autres éléments, en fait. C'est pas forcément j'ai pas choisi ma pédale préférée de distorsion pour en faire un disque. C'est plutôt quelque chose qui amène de la richesse aux compositions, ouais.
La grande nouveauté, c'est bien entendu l'arrivée d'Armel officiellement, qui vous a rejoint il y a 3 ans. Donc ça fait un moment que vous travaillez quand même avec elle. Mais là, officiellement, elle a rejoint la formation. Qu'est-ce qu'elle a redéfini dans votre musique ?
Plein de choses. Déjà, en fait, quand on a commencé à travailler à 4, moi, j'avais dans l'idée de me décharger un peu parce qu'on était en trio. Je m'occupais de jouer les basses, les accords. Puis des fois, ça faisait qu'on était un peu surmené. au moment de faire des lives, et ça fait qu'on est moins souverain au moment de jouer. On doit s'occuper de beaucoup de choses, donc c'était déjà ça, c'était de pouvoir partager les rôles, les amplifier, de faire en sorte que justement qu'elle puisse prendre des rôles de base, des rôles d'harmonie pour que je puisse faire autre chose. Et puis donc ça, c'est le côté, on va dire, pratique. Après, le côté plus artistique, c'est qu'elle a aussi son univers à elle. Elle improvise beaucoup, donc elle est claviériste, mais elle a plusieurs synthés, elle maîtrise aussi énormément de petits ustensiles qu'elle utilise pour faire de la noise ou des éléments de texture. Donc tout son travail, tout son bagage à elle, en fait, on l'a découvert en fait en travaillant au fur et à mesure. Et là, sur ce disque, on l'entend vachement plus parce que on l'a travaillé ensemble.
bah, il y avait tout le moment où elle arrive et forcément, elle essaye de trouver sa place. Et puis, au bout d'un moment, on devient force de proposition. Il y a un moment donné où vous avez l'impression que ça a basculé, où tout à coup, elle est venue en disant, ben voilà, là, je vais faire ça, je vais faire ça, avec beaucoup plus d'assurance.
Oui, alors au début, ce qui était compliqué, c'est que les morceaux n'étaient pas écrits pour accueillir une quatrième personne. Donc, il a fallu réarranger les choses. Et puis, la difficulté qu'on avait, c'était surtout par rapport au son, où c'était des fréquences qui s'empiètent un peu. Donc, il fallait trouver en fait de l'espace. Donc, autant de notre part en libérer, et puis de sa part, ben, s'accaparer en fait les espaces libres. Et puis, forcément, c'est un processus qui prend du temps parce que c'est une orchestration qui n'est pas théorisée, du moins pas encore. Et du coup, ben, ce travail-là, il nous a pris un moment. Puis, ça, jusqu'au moment où on a vraiment réussi à jouer ensemble, je pense que ça nous a bien pris une voire deux ans. Ouais.
Mais on y est arrivé, preuve en est ce disque qui, vous l'avez évoqué, en termes de mixage, je trouve un équilibre et une collégialité assez impressionnante, où tout à coup on peut avoir une batterie qui va s'émanciper et puis prendre les devants sur un saxophone qui est censé être un lead de mélodie ou que sais-je. Il y a une recherche d'équilibre en termes de mixage. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez conscientisé ou pas?
Ouais, mais je pense que ça s'est fait bien avant le mixage. Ça s'est fait au moment où on a mis en place les morceaux. Quand on allait au studio, il faut savoir qu'on a enregistré ensemble. Donc, on a vraiment fait des prises de take qui étaient live. Et ce côté-là, on va dire, de faire sortir tel élément à tel moment, c'est plutôt quelque chose qu'on a arrangé avant d'aller au studio. Et après, ben forcément, dans le moment du mixage, ben on sait que telle mélodie, que tel rythme, ben voilà, c'est quelque chose qui doit être plus prépondérant ou au contraire, plus en situation d'accompagnement. Mais je dirais que cet aspect-là que tu mentionnes, c'est plutôt quelque chose qu'on a fait au préalable.
Emilio, vous restez par là, on va reprendre notre interview après un premier extrait de ce disque qui s'appelle donc Echo Chamber. Ce sera le titre No North. Morceau aérien du nouvel EP d'Inuit Pagoda, Echo Chamber. Les Biennois sont avec nous pour nous présenter tout ça. Emilio, guitariste donc, j'allais dire que ce morceau est le plus joueur de votre set, avec ce ping-pong syncopé entre le saxophone et les claviers, donc Nicolas et Armel qui ont l'air de bien s'amuser.
Ouais, c'est ça, il y a un moment un peu plus, on va dire, impro, où d'une mélodie écrite, il et elle... s'amusent en fait, et puis c'est un côté assez ludique pour finalement aboutir sur une mélodie jouée par Armel qui est pour le coup plus aérienne et presque psychédélique.
Nonor, c'est aussi le morceau qui a son clip, œuvre de Gaspard Gigon, dans laquelle on vous voit tour à tour sur vos instruments dans des plans qui se chevauchent, et puis surtout passer par un filtre négatif aux couleurs très pastel. Est-ce que vous pensez aussi que c'est le morceau le plus pastel de votre set? Parce que moi j'ai trouvé assez juste Gaspard Gigon sur ce coup-là.
Ouais, alors Gaspard, ça fait un moment qu'on travaille avec lui, je crois qu'on s'entend bien, autant au point de vue artistique que professionnel, puis humain. Ouais, le morceau pastel, disons que c'est... Pour le coup, il avait une carte blanche, il est venu filmer au studio, et puis après, ben, au lieu de faire un montage un peu... comme on aurait plus l'habitude de voir, on a décidé de faire quelque chose de beaucoup plus expérimental. Donc il est parti sur des explosions de couleurs qu'il a un peu essayé d'agencer pour que ça matche avec la musique.
Mais il est dans le juste.
Moi je trouve, ouais.
Ok, alors on est d'accord, c'est bon, c'était ma question. Et par contre, il n'y a pas d'autres collaborations sur ce disque, comme on avait pu avoir Thomas Richard qui rappait sur le premier de vos EP. Il y a eu un remix d'Arthur Natek sur Backflows. Là, vous êtes seul avec vous-même, c'est votre univers à vous et on n'invite personne à la maison.
Ouais, c'est ça. Bon, on a décidé d'enregistrer tout en live et puis d'avoir quelque chose de le plus cohérent possible. Et c'est pour ça qu'on n'a pas tellement demandé. On y a réfléchi et puis finalement les choses se sont faites comme ça. Donc c'est pas forcément une volonté de notre part, mais enfin c'était pas. Voilà, ça s'est fait comme ça. Puis,
Après, c'est pas de l'enregistrement maison.
Non, on est allé dans un super endroit à Renan qui s'appelle le Phonotope, enregistré avec un fabuleux personnage qui s'appelle Antoine Ether, avec qui on a enregistré. Donc c'est quelqu'un qui est très très fort pour les prises de son, je trouve. Et ensuite, on a mixé ensemble chez lui, on s'est vu quelques sessions, donc on a vraiment fait tout le processus ensemble. Et c'est très cool parce qu'on entend, je trouve que c'est très fidèle par rapport au jeu qu'on a, tout en ayant vraiment un travail de studio avec des oreilles aguerries.
La suite pour Inuit Pagoda, qu'est-ce que c'est ? J'ai vu des concerts au Miam à Fribourg le 22 mai et puis le 9 juillet au Podring à Bienne.
Ouais, alors en Romandie, c'est nos deux prochains concerts. Donc au Miam, c'est une espèce d'espace avec, je ne sais plus, il y a 36 haut-parleurs. Et là, pour nous, ce sera une première. Et puis
vous allez jouer avec ça ?
Oui, c'est le but en fait. Je crois que c'est vraiment l'espace est dédié à ça et puis commence, donc c'est assez nouveau. Et là, c'est Jocelyn Raphaël qui s'occupe de ça, qui va s'occuper de nous sonoriser pour son dispositif.
J'allais dire, vous amusez un peu avec toute la spatialisation. Est-ce que vous allez retravailler des morceaux ou l'aspect des choses pour jouer avec cette spatialisation des haut-parleurs ?
Alors, je sais pas encore. En tout cas, on a rendez-vous très tôt le matin pour faire un soundcheck vachement plus long que d'habitude. Et puis, on verra si on va arranger. Je pense pas qu'on va tellement arranger les morceaux, mais par contre, on va, c'est sûr, travailler le son pour qu'il y ait, qu'il y ait une plus-value à notre musique.
On vous connaît, joueur. On pense que ça va bien se passer. Donc, ça, ce sera pour le 22 mai et puis 9 juillet, Podring. On est dans une configuration un petit peu plus classique.
Au Podring, ouais, ce sera sur une scène en contexte festif. Et puis, à la maison, qui le plus est. Donc, que du bonheur.
Mélio, merci beaucoup.
Mais avec plaisir, merci à toi.
Inuit Pagoda, les Biennois, donc, qui ont sorti leur nouvelle EP, Echo Chamber, New Jazz, Krautrock, paysage sonore onirique. On se quitte sur un deuxième extrait. C'est le morceau le plus énergique du set, Drift Elsewhere.